Avec Pascal Amour, qui sera bientôt rejoint par Bruno Bruchero à l'occasion du festival Trolls et Légendes. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de l'ouvrage qui est sorti chez Drugstore, qui s'appelle « À la recherche de la mandragore ». Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le concept de cet ouvrage ?
D'abord, bonjour, moi je m'appelle Pascal Lamour. Mon métier, c'est d'habitude de faire de la musique, et là, je me retrouve à être auteur. Pourquoi ? Parce que, en dehors de la musique, justement, je suis druide et pharmacien, et ça rentrait dans le concept. C'est quoi le concept ? À la recherche de la mandragore, c'est la quête d'un personnage, qui s'appelle Arsmaïla, qui recherche la mandragore, et au cours de ses voyages, pour trouver la mandragore ou pas, on ne sait pas en fait. Elle va rencontrer tout un tas de personnages, des druides, des alchimistes et aussi des plantes. Et donc j'en profite à chaque fois pour expliquer à quoi servent ces plantes, qu'est-ce que c'est un druide, qu'est-ce que c'est un alchimiste, qu'est-ce que c'est une tisane, qu'est-ce que c'est une décoction, les huiles essentielles, etc. Donc un ouvrage sérieux de pharmacien, sérieux de druide, ludique de musicien et superbement illustré par un illustrateur qui s'appelle Brucero. Donc c'est une quête, c'est une histoire ludique, ce n'est pas du tout un précis de pharmacologie, c'est ouvert à tous, c'est très simple à lire. Par contre, les formules et les documents qui sont dedans sur les plantes et sur le druidisme, etc., sont des choses sûres où il n'y a pas de doute. Et pour moi, c'est important parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur les plantes, mais les gens me disent « Ah oui, c'est bien, mais comment on est sûr ?» Et on est sûr parce que le jour où un pharmacien signe de sa main un livre en tant qu'auteur, bah il est responsable évidemment de ce qu'il écrit parce qu'on peut toujours le retrouver s'il dit n'importe quoi. Donc évidemment, essayez les formules, enfin après avoir acheté le livre, bien entendu.
Justement, est-ce qu'il y a une bande-son qui colle à l'ouvrage ?
Alors, vous savez, c'est très politique de répondre... C'est une très bonne question. Ça, les personnages politiques sont très forts pour poser ça. Vous avez posé une bonne question. Ça donne des fois de l'importance, surtout à celui qui essaye de répondre, mais quand c'est un politique, c'est jamais terrible. La bande-son, bonne question, donc. Alors, moi, je suis musicien, donc mon travail, c'est de faire de la musique tous les jours, chaque jour de l'année. Et on peut pas échapper à son travail quotidien, donc... La continuité de la musique, c'est la mandragore, bien sûr. Sauf que Brucero, qui est un illustrateur extrêmement visionnaire, m'a dit « Écoute, Pascal, ce serait quand même bien de faire la bande-son du livre. » Donc, nous allons faire la bande-son du livre, qui va s'appeler aussi quelque chose autour de la mandragore, qui va sortir à la fin de cette année dans mon label qui s'appelle Ben C Productions. Et donc, on va faire des compos. Je vais faire des compos avec des musiciens que je vais inviter autour de ce projet, cette quête de la mandragore. Et pour ceux qui ont déjà le livre... Ils pourront quand même acheter le disque, parce qu'il n'y aura pas les mêmes dessins, nouveaux dessins.
D'accord, donc un livret qui sera illustré par Bruchero.
Alors, la grosse question, c'est est-ce que c'est un disque-livre ou est-ce que c'est un livre-disque ? Alors, cette question, elle est très posée, évidemment, par les professionnels, parce que c'est pas le même taux de TVA, et ça fait marrer, parce que tout d'un coup, un livre et un disque, c'est vachement dur à mettre ensemble, non pas parce que c'est compliqué d'un point de vue artistique, non, pas du tout, c'est compliqué d'un point de vue TVA. Pour les disquaires. Alors, je ne sais pas répondre si c'est un disque livre ou un livre disque. En tout cas, oui, nouvelles illustrations de Brucero, ouais.
Et au niveau des influences musicales, du coup, c'est ce que vous faites d'habitude comme musique ou c'est quelque chose d'un peu différent qui colle plus au livre ou est-ce que votre musique collait parfaitement au livre ?
Alors, il y a énormément d'extraits de mes chansons dans le livre. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà écrites et qui ont servi dans le livre autour des petits textes. Je pense que la démarche est un peu différente. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que moi, je suis nouveau dans ce domaine. Donc, je connais pas le public, je connais pas forcément qu'est-ce que les gens attendent. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné à Brucero 12 de mes albums. Donc, ça fait à peu près 120 morceaux, un peu plus. Et je lui ai demandé de choisir quel était le type de morceau qui l'intéressait dans les 120 en question. Et à partir de là, je vais composer dans les influences de moi-même. Je vais m'influencer moi-même en rapport avec ce qui, pour lui, correspond à la mandragore. Voilà. Sachant que Brucero m'a demandé de faire le livre, sans savoir que j'étais ni druide ni pharmacien, en fait, c'est à la fin d'un concert où il s'est dit « Oh putain, c'est bien la musique, peut-être que ce gars-là pourrait m'aider dans ma recherche. » Et en fait, voilà, il a découvert qu'on avait plein de points communs.
C'est quand même un concept qui marche très bien, c'est un très beau livre, un très bel ouvrage qui est vraiment multifacette. Est-ce que vous envisagez éventuellement de faire d'autres ouvrages dans ce genre-là ?
Une très bonne question encore. Vous voyez pas, vous auditeurs, mais la fille qui me pose la question, elle arrête pas de se marrer en fait. C'est vachement bien parce que du coup... C'est un peu visuel, quoi, l'émission de télé. Hein ? Ah, mais non, c'est la radio. Ouais, donc pour répondre à la question, il y a longtemps que j'ai la réponse à ça, parce qu'effectivement on va continuer le travail, c'est-à-dire que on a fait un premier livre ensemble et moi j'ai besoin de temps pour savoir comment je m'entends avec quelqu'un, non pas dans le travail mais aussi humainement. C'est-à-dire là on fait des salons, des jours ensemble, est-ce qu'on s'entend bien? Oui. Est-ce qu'on est en accord? Oui. Donc du coup il faut continuer l'aventure. Donc je réponds à ça, oui, mais il faut pas faire une suite, c'est ridicule des suites. C'est gavant, on a déjà dit les choses qu'il y avait à dire là. Et donc on va faire des digressions, on va récupérer certains des personnages que j'ai créés et on va en sortir comme ça de temps en temps. Et puis après on va essayer de dériver de ce sujet-là vers d'autres sujets. Donc c'est plusieurs livres en fait qu'on va faire. A priori on part sur une série de 3, mais peut-être plus. Donc ça veut dire une dizaine d'années de collaboration avec... Celui que vous voyez là, vous intervieweur, pas vous auditeur bien sûr, qui s'appelle Brucero.
C'est très stimulant, je suppose, de présenter des choses techniques, scientifiques, d'un point de vue féerique.
Moi, il n'y a plus rien qui me stimule en fait. Et ça n'a pas à voir avec la gaverie, hein. C'est pas ça. C'est juste ça a à voir avec... J'ai tellement l'habitude de faire des choses et de ne pas savoir où elles vont aller que rien ne me stimule. Par contre... Donc je suis pas vraiment gavé de tout ça parce que je crois que c'est la réaction des gens qui est stimulante. C'est-à-dire que faire un projet, c'est engageant. Si personne ne s'y intéresse, c'est stimulant 2 secondes. Par contre, si les gens s'intéressent à ce que vous faites, alors là oui, on est dans la stimulation pour continuer. Et donc auditeurs, achetez nos livres, écoutez notre musique et achetez nos disques et commentez-les. Parce que ça nous donne le courage de continuer. C'est là qu'elle est la stimulation en réalité. Si vous faites des disques, si vous faites des livres, si personne vous écoute, si personne vous lit, c'est vachement triste. Alors, vous allez être célèbre dans votre immeuble, parce que peut-être dans l'immeuble, il y a la belle-mère, la tante, la voisine et la cousine. Mais finalement, à quoi ça sert? Parce qu'ils vous connaissent déjà. C'est pas très intéressant. Donc, ce qui est stimulant réellement, hors de la plaisanterie, c'est vraiment de se dire que... Il n'y a pas besoin d'aller chercher les choses, qu'il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent, qu'on peut toujours créer des choses nouvelles au contact des autres, et que la créativité et la demande des autres, finalement, ne s'affaiblissent pas. C'est ça qui m'importe. Et ça me stimule vraiment de me dire, merde, je croyais être arrivé au bout de quelque chose, et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, mais vous savez, vous pouvez encore faire ça et ça et ça. Alors là, c'est terrible, quoi. C'est magique. Comme le livre, c'est la mandragore. Et c'est ça qu'on recherche.
Je suis en train de penser que ça serait bien de rajouter une exposition sensorielle avec des odeurs, avec des présences de feuilles réelles, etc. Parce que c'est tellement un projet multifacette qu'on voit pas mal d'expos, de dessins pour l'instant, enfin d'illustrations autour de l'ouvrage et puis de l'œuvre de Brucero. Mais vous en parlez tellement avec plein de facettes sensorielles différentes, je me dis on pourrait rajouter les odeurs et le toucher sans problème.
Alors, si c'était une affirmation, je veux bien vous croire. Si c'était une question, j'ai une petite réponse. On est arrivé à la fin du salon aujourd'hui. C'est vrai qu'entre les odeurs d'aisselle et les odeurs de pied, il ne serait pas inintéressant d'avoir des odeurs complémentaires. Si c'est ça que vous voulez dire, je pense que ça avait entièrement raison.
Justement, un petit mot sur l'ambiance du salon.
Je pense que cette sueur permanente, n'est-ce pas, après une journée chaude et... Enfin, chaud en température, j'entends, hein, parce qu'on a été sérieux, nous, on n'a pas arrêté de travailler. Hein. On a signé des livres toute la journée. Moi, je trouve que les gens sont extrêmement patients, parce qu'ils attendent longtemps, en particulier pour les dessins. Il y a beaucoup de monde, les gens sont calmes, je trouve. Il y a quand même des queues, pour des auteurs internationaux, j'ai vu pour un auteur une queue de 50 mètres hein, ce matin. Et les gens sont calmes, ils ne sont pas perturbés. Bah écoutez, je trouve que c'est bien, quoi. C'est vachement bien. C'est un public calme, quoi. C'est un public attentif. Beaucoup de monde. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux, vous?
On est avec l'arrivée de l'auteur. Donc, justement, on était sur l'ambiance du salon. Un petit mot?
Un petit mot pour...
sur l'ambiance du salon.
Ah, excellente. Excellente. Excellente, parce que c'est vraiment le rendez-vous de rêve. C'est-à-dire que... Tout est de qualité en fait ici, les auteurs, l'organisation, ce qui est proposé, les concerts sont, enfin le niveau est excellent, enfin vraiment tout est très bon niveau. Pour moi c'est le rendez-vous incontournable, vraiment, dans le domaine du légendaire, de ce qui compte en féerie, c'est ici qu'il faut venir.
Alors il y a actuellement une exposition de vos illustrations donc sur cette édition de Trolls et Légendes. Est-ce qu'il y a eu un retour du public au moment des dédicaces sur cette exposition ?
relativement bonne, je pense. Ça n'a pas été direct, en fait, parce que l'exposition est un petit peu loin de là où je dédicace. Mais tous ceux qui sont revenus après l'avoir vu sont plutôt satisfaits. En fait, moi, je dédicace donc des livres d'illustration. Lorsque le public est amené à voir en vrai les illustrations qui sont faites pour faire ces 10 livres, là, on a un rapport direct entre le travail d'illustrateur et ce que ça donne, évidemment, en édition. Et c'est plutôt rare, d'ailleurs, de le faire, parce qu'on ne peut pas exposer tout le temps, partout. Et c'est compliqué, c'est un peu cher, ça demande un espace, ça demande des conditions, voilà. Là, on m'a donné l'occasion de le faire, donc c'est vraiment... pour moi, c'est à la fois une chance, et c'est aussi, je pense... quelque chose de plutôt bon pour le public, parce qu'on a le rapport direct entre le livre et comment on fait le livre, c'est-à-dire les illustrations.
Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur la création ? Est-ce que ça a été un petit bout de texte, un dessin, ou un dessin qui a amené à texte ?
Je peux répondre. À mon avis, on a travaillé, pour utiliser un terme de biologie, en symbiose. C'est-à-dire que moi, j'ai un temps de travail qui est plus lent que celui de Pascal, parce que la peinture, c'est long. On peut décrire une scène rapidement en quelques minutes ou en quelques heures si on veut. Après, cette scène-là peut prendre plus d'un mois parfois pour la faire. Donc ce temps, il était toujours là. Mais par contre, je référais toujours à Pascal, je lui montrais toujours le travail en cours ou à faire, et il réagissait par rapport à ses textes. Et inversement, il avait des idées fortes à défendre pour le projet, et moi j'essayais, en fait, en amont, de voir comment j'allais rentrer dans ses idées, tout en respectant une ligne, on va dire, grand public, féerique, parfois ésotérique, enfin, comment en illustration j'allais tourner autour de certains sujets. Et donc on a dû s'apprivoiser déjà, parce que on s'est découvert aussi en faisant le livre. Il a fallu beaucoup de réunions, beaucoup de bavardages, de tout et de rien, mais pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au travail à faire. Et en fait, ça a été une lente décantation. Je sais que Pascal, il lui a fallu du temps aussi pour apprivoiser l'univers. Ça lui était pas au départ naturel. Il a découvert un petit peu une partie du monde, de ce monde-là, en faisant le projet. Donc, il a fallu du temps pour rentrer dedans, pour connaître les codes, en fait, parce qu'il y a des codes. Et ensuite, y rentrer et les intégrer dans sa propre prose, en fait.
Et ça a été dur d'apprendre tous ces codes ? Est-ce que ça bride un peu l'imagination, ou au contraire, après, on est un peu plus guidé sur le chemin et ça va plus vite ?
Bah non, c'est une demande de ma part, en fait. C'est-à-dire que ce que Bruno dit, avec lequel je suis totalement d'accord, c'est qu'il fallait que je découvre l'univers, mais c'est surtout que quand il m'a proposé de faire le scénario, moi j'ai dit, bah écoute, je veux bien, mais je connais pas, quoi. C'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, je sais pas où ça va, je connais pas le public. Sur ma musique, je sais, là, je sais pas trop. Donc, heureusement qu'il y a eu ce temps-là, quoi. Ça n'a pas été difficile, ça a juste été, il a fallu s'adapter, comme il a dit, au travail, et puis après s'approprier pour pouvoir avoir sa propre écriture. C'est vrai qu'il y a des scénaristes de renom avec qui on a parlé aujourd'hui qui ont lu notre livre et qui reconnaissent le scénario. Et pour moi, c'est important parce que j'ai besoin aussi de l'avis des autres. Quand on arrive dans un domaine qu'on ne connaît pas, c'est important. Donc oui, Bruno m'a aidé, bien sûr, heureusement.
Sur votre façon de dessiner, parce que quand on voit les illustrations, c'est ce que disait Tiffen, on a l'impression peut-être presque des fois d'avoir comme plusieurs étages, comme sur un dessin animé. Vous avez une profondeur, presque du relief qui sort. Comment est-ce que vous le travaillez, ça ?
En fait, la profondeur, c'est presque le béaba, en fait, de l'activité, on va dire, image.
C'est pas une simple perspective. On a vraiment l'impression d'avoir plusieurs niveaux.
Comme un cellulo.
Et pas cette sensation-là ?
C'est difficile parce que moi, je suis dedans, donc j'ai pas ce recul du public, en fait. Je suis pas le meilleur public, en fait, de ce que je fais, parce que c'est moi qui le fais. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. La profondeur dont vous parlez, c'est un peu l'espace que j'essaye de mettre dans l'image pour que l'imagination et puis le désir du spectateur puissent rentrer. C'est-à-dire qu'en fait, si une image est fermée, le spectateur ne peut pas rentrer dedans. Il y a quelque chose d'agressif, comme une porte qui est fermée. Bon. Alors que si on ouvre une porte entièrement, je veux dire, il y a quelque chose de trop évident, trop presque trop gras, trop presque malsain. Or, si on entrouvre la porte, là, il y a à la fois l'idée qu'il y a quelque chose derrière et l'espace de l'entrebâillement de la porte, c'est un peu l'espace de l'imagination qui va se dire, mais cette porte-là, je peux la pousser et je vais pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Or, je vois pas ce qu'il y a derrière. Et ça, cet espace-là, en fait, de la porte on va dire, entre-ouvertes, juste à peine, c'est tout l'espace d'imagination et de rêve. Et donc, cet espace-là, on essaye de le faire, de l'utiliser également en illustration. C'est-à-dire qu'on a un premier plan qui dit ce qu'il a à dire, on va dire, peut-être un arrière-plan qui a une autre fonction. Et entre les deux, cet espace dont vous parlez, c'est un peu l'espace où l'œil peut se promener. On le fait un peu inconsciemment, parfois en sachant bien ce qu'on fait, mais surtout c'est l'espace en fait de vie de l'illustration. Faut pas oublier que c'est un art fixe qui a lutté de nos jours avec toute l'industrie du jeu vidéo, du cinéma, de la télévision. Donc des images qui bougent en permanence, qui ont des tas d'effets pour flatter l'œil et pour attraper un spectateur. Or nous, les peintres ou les illustrateurs, on fait des images fixes. Donc il faut s'arranger pour captiver quand même. Et c'est évidemment moins facile, moins direct. Donc il faut s'arranger pour trouver des parades en fait. Parmi les trucs des peintres et des illustrateurs, il y a ces phénomènes-là d'éventuellement de flou, de choses légèrement cachées ou discrètes qui permettent aux spectateurs d'avoir une vraie activité devant quelque chose qui est fixe. L'activité cérébrale et l'activité de l'œil qui sont liées. Voilà en gros pourquoi cette sensation que vous avez en fait.
Le choix de la couverture.
Alors, je vais parler pour Pascal parce que le choix de la couverture, il en est entièrement responsable, dans le sens où l'éditeur me pressait pour avoir une couverture rapidement, pour les commerciaux, pour que le livre soit inscrit dans le programme éditorial rapidement. J'ai proposé une couverture dont j'étais absolument sûr, parce que l'image avait déjà été un peu éprouvée. Elle était faite pour le livre, et elle a été faite au début du livre, donc je savais que cette image-là fonctionnait, c'était sûr. Par contre, cette idée-là était provisoire, c'est-à-dire que, bon, il fait là une image rapidement de couverture, j'en ai donné une qui était faite. Or, Pascal m'a dit, au bout de plusieurs tergiversations, que certes, la couverture lui plaisait beaucoup, mais, et je me rappelle toujours de la phrase de sa femme qui m'a dit « La couverture est belle, mais ça fait un peu Martine à la campagne ». Et là, ça a été terrible, parce que ça ne remet pas en cause l'image, mais simplement, on n'était plus dans le propos qu'on voulait pour le livre. Donc j'ai dû, devant une évidence telle, et l'approbation aussi de l'éditeur qui a dit effectivement le propos n'était pas tout à fait judicieux par rapport à cette image, j'ai dû donc refaire une couverture, et ça s'est fait vraiment à la fin du livre, donc c'est sans doute une des dernières images que j'ai faites. Par contre, j'ai inclus tout ce qu'on avait dit sur l'idée même qu'on se faisait du livre, c'est-à-dire qu'il fallait que ça sente le mystère, l'étrangeté. C'est vrai que la mandragore, c'est quand même pas anodin, donc il fallait quelque chose à la hauteur de ce mot-là même, et de l'idée qu'on se fait de cette plante-là. La couverture est, à mon sens, enfin je l'ai faite dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait tout l'esprit du mystère, de la richesse, de la rareté, de toute la magie de la mandragore, dans cette image-là. A priori, ça fonctionne. L'image fonctionne par rapport au titre et par rapport à ce mot-là, la mandragore. Je remercie Pascal qui a, lui et sa compagne, qui ont influencé cette image-là. Mais bon, c'est exactement ça, c'est un travail en commun, donc j'allais pas imposer quoi que ce soit. Quoi. Voilà, c'est un travail de symbiose, comme j'ai dit tout à l'heure.
Quelque chose à ajouter ou...
Qu'est-ce que tu veux que je rajoute peut-être en fait, non, mais voilà, c'est exactement. Mais c'est difficile parce que quand on parle tous les deux, on parle toujours l'un à la place de l'autre en disant ce que l'autre allait dire. Donc ça prouve que finalement on a vraiment fait les choses en commun. Elle est vachement bien cette pochette, c'est clair. Quand il me l'a montré en disant bah voilà, je propose ça, je dis bah oui, d'abord elle est belle et surtout elle représente bien ce qu'il y a dans le livre, parce que la pochette d'avant dont il a parlé, elle était pas en accord avec le contenu. Elle était jolie mais elle était en accord avec une partie du contenu mais représentait pas le livre. Or quand on présente un livre, il faut vraiment que les gens soient pas trompés sur ce qu'il y a dedans. Qui s'attendent à ce qu'il y a. Ici, il y a une tromperie involontaire, bien entendu. Sur une pochette qui n'est pas en rapport avec le texte, on fait que des déçus. Moi, je le vois très bien sur les disques, quand les disques sont mal faits, et ça arrive que j'en croise, on reçoit une pochette, on se dit, ah tiens, c'est tel type de musique, puis on écoute, c'est autre chose, et là, on est hyper déçu. Et moi, je ne voulais surtout pas ça.
On termine nos interviews avec une question spéciale chaque année. Si on vous donnait la possibilité de collaborer avec un artiste ayant existé, quel que soit le domaine artistique, qui serait cet artiste et quel serait votre projet ?
Alors, votre question tombe très mal, parce qu'évidemment, chez nous, les druides, parce que c'est quand même aussi ma spiritualité, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. La mort n'est que le milieu d'une longue vie. Donc, si ça se trouve, le mec que vous croyez mort, en fait, il est métamorphosé en un autre artiste vachement bien aussi. Donc, peut-être je travaille avec une réincarnation d'un artiste génial qui l'est resté, finalement. Donc, ma réponse était simple, c'est que peut-être je voudrais faire ça avec Bruce Hérault et avec les gens avec qui je fais des projets. Et je veux continuer. Enfin, je veux faire d'eux des gens dont on parlera quand vous poserez cette même question dans 50 ans, en fait. Voilà. Ce que je veux, moi, c'est être ça. Le mec qu'on dira, bah, j'aurais voulu bosser avec un tel dans 50 ans. Voilà. C'est, on va faire la tradition de demain. C'est ça ma réponse.
Vous avez donc, mis à part l'exposition qui a lieu actuellement au Cercle Arthurien, au Château de Compère à Brocéliande, donc ça c'est l'exposition jusqu'au 27 juin, est-ce que vous en avez d'autres de prévues ou est-ce que vous avez des séances de dédicaces de prévues ?
Alors oui, on n'arrête pas en fait, ça fait des mois qu'on est, depuis que le livre est sorti le 4 décembre, on n'arrête pas tous les week-ends. Donc là il y a encore, il y a ici, après il va y avoir Dampierre dans le Jura, Rouen en Loire-Atlantique, le festival du livre de Vannes, pour les plus connus, mais il y a autre chose entre-temps, il y en a plein d'autres. Je rappelle aussi que mon métier, c'est quand même d'être musicien. Donc, entre-temps, j'ai un paquet de concerts, j'ai des paquets de productions, parce que j'ai un label qui s'appelle Ben C Productions, et je produis plein d'artistes, donc j'ai deux albums qui sortent ce mois-ci. L'ingénieur du son, c'est moi, le producteur, c'est moi, donc il faut que je les finisse, que je les masterise. Donc, on est dans une structure où on maîtrise tout du début à la fin. Donc, j'ai tout ça à faire et quelques concerts. Aussi, il faut qu'on travaille sur le prochain projet. Donc, on va être pas mal occupé.
Pour retrouver votre actualité, il y a un site internet.
Il y a un site, mon site internet, c'est www.pascallamour.com. Bruce Hérault, il a un blog dont je me souviens jamais le nom, mais il va le dire.
brucero.canalblog.fr.
Il y a aussi un truc, c'est que Pascal Lamour et Bruce Hérault sont sur Facebook. Et je fais pas de la promo de Facebook, ça m'emmerde, mais c'est comme ça. C'est quand même un outil de transmission qui est intéressant, même si on peut en discuter longtemps. Et donc, on répond aux questions. Donc, si les gens s'intéressent à ce qu'on fait, ils peuvent toujours se mettre amis avec moi sur Facebook, Pascal Lamour, et je réponds aux interrogations des gens, tout le temps, tout. C'est long, je sais, c'est 2 heures de travail par jour. Mais il y a tous mes fans de musique déjà, donc si on rajoute les fans de bouquins, bon, finalement, ça fera que la continuité.
Merci beaucoup.
De rien, c'est un plaisir pour nous. Alors, pour vous, auditeurs, vous remarquerez que tout ça, c'est un peu découpé, recoupé, peut-être encore coupé, j'en sais rien. Mais c'est normal parce que Bruce Hérault est un être aussi étrange que ses livres, et il passe d'un poster à un livre, d'un livre à un thé, d'un thé à un regard et d'un regard à une disparition. On sait jamais trop où, mais il revient toujours avec une affiche ou avec un cadeau. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas.
Merci beaucoup.
Donc Bruce Hérault, donc je voudrais remercier Xavier et Tiffaine de L'Autre Monde pour cette interview. Vous êtes charmant.
Merci à vous.